Que vous bénisse. Allons prier. Cet ancien évangile est celui dont on voudrait se rassembler autour ce soir, afin que la bonne nouvelle nous soit annoncée, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ta parole, qui est une lampe à nos pieds, puisse éclairer notre chemin. Selon que nous l'avons chanté ici. C'est un chemin difficile, c'est vrai qu'il y a des épines. Mais nous comptons sur ta lumière. Tant que nous voyons ta lumière nous éclairer, nous avons cette confiance que nous arriverons à bon port, ainsi que nous venons de le chanter à coup sûr. Sois béni, sois loué. Devant racheté ici présent ce soir, veuille nous apporter la parole qui s'y osera ou racheté. Tu vois aussi leur cœur, tu connais les besoins, certainement des prières en fonction de ces besoins t'ont été adressées. Aussi nous voulons aussi joindre notre prière à toutes celles qui te sont adressées en cet instant. Déposer cela sur ton autel. Que cela puisse avoir une bonne odeur à tes saintes narines. Que ta grâce nous environne. Et pour ce qui est des besoins dont nous venons parler, nous voulons déjà te dire merci selon qu'ils ont été évoqués. Parce que tu exauces et tu satisfais les besoins de tes enfants. Ne parlons pas de nos désirs. Toi, tu sais ce dont nous avons besoin. Avant même que nous n'ouvrions nos bouches, veuille tout simplement satisfaire à ses besoins et que chacun reconnaisse en partant combien tu nous connais, combien tu vois nos cœurs. Puissions rentrer joyeux comme la Samaritaine ayant entendu de la part du Seigneur Jésus-Christ tout ce qu'elle a fait dans la vie. Elle a vu que tu la connaissais. Cela l'a rendue joyeuse. Elle en a apporté le témoignage dans tout le village. Puissions-nous aussi apporter notre témoignage. Partout nous serons, montrant que Dieu nous connaît. Il n'y a rien de bon en nous. Nous avons besoin d'un changement total, d'une nouvelle naissance. Et c'est vous. C'est à toi que nous regardons, car toi seul donnes la vie. Donne-nous ce pouvoir, pendant que nous te recevons, ce pouvoir pour nous de devenir tes enfants. Pardonne-nous nos péchés. Jésus-Christ, notre Seigneur, te demandons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous resterons ce soir beaucoup dans les psaumes. Je crois que c'est Paul qui dit ceci. Je vais vous le lire un peu. Puis nous lirons dans le psaume 27. Attendez. Dans Ephésiens 5, 18, Paul nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. J'aime bien ce terme quand il dit des cantiques spirituels. Ça veut dire qu'il y a des cantiques qui ne le sont pas. Alors soyons attentifs à ce que nous chantons parfois. Maintenant, vous pouvez les chanter quand vous êtes seul. Mais ça ne vous entretient pas. Ce qui vous entretient, c'est un cantique spirituel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire ce soir dans le psaume 27. Verset 11 et 12, 13, 11 et 12, pardon. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous assois. Ce n'est pas la première fois que David prie dans les psaumes en disant « Enseigne-moi tes voies ». Ou ta voix. Il demande à Dieu de le conduire dans le sentier de la droiture à cause de ses ennemis. Vos ennemis sont ceux qui ont tendance à vous écarter de ce sentier. C'est un peu la technique de Balaam, n'est-ce pas ? Pousser Israël hors du chemin, de manière à ce que la colère de Dieu frappe Israël. Il a essayé de maudire lui-même, ça n'a pas marché. Mais pour que Dieu les tape, pour que Dieu les frappe, il fallait qu'ils s'écartent du chemin. Et c'est exactement ce que Balaam a fait, ayant compris cela. Notre prière ce soir, en tout cas le sujet, c'est une prière. Conduis-moi dans le sentier de la droiture. Parce qu'il y a ces ennemis, ces gens qui essayent de vous détourner du droit chemin. Ils ne vous aiment pas. Ils font semblant de vous aimer, mais ils ne vous aiment pas. Aussi, ce sentier que David demande à être conduit, il y a des adversaires. À cause de ses ennemis, il demande à ce que Dieu le conduise dans le sentier de la droiture. Ses ennemis sont des faux témoins. Ils viennent avec de faux témoignages pour vous sortir de vos gonds. Ce sont des gens qui ne respirent que la violence. Notez que David ne demande pas à Dieu d'enlever ses adversaires. Il ne demande pas à Dieu d'anéantir ses adversaires. Il ne lui demande pas d'enlever ses ennemis. Il ne veut juste pas être livré entre leurs mains. En tout cas, être livré à leur bon plaisir. Ce qui signifie que lorsque il quitte le sentier, la droiture, eh bien, ses adversaires, ils en éprouvent du plaisir. Mais bon, il sait que ses adversaires, le mal qu'ils lui veulent, c'est le détourner de Dieu. Tout ce qui vient de manière à vouloir nous tourner de Dieu, cela vient de l'adversaire. Et ses adversaires, David en parle dans un autre psaume. Ils servent à quelque chose. Pourquoi donc ces adversaires? Nous allons d'abord lire dans psaume 38. Il dit au verset 18, il dit, car je suis prêt de tomber. Amen. Et ma douleur est toujours devant moi. Il est prêt de tomber. Ce qu'au fil d'un titre, intitule ce psaume, il dit, tristesse selon Dieu, produite par le péché. David est triste. Il exprime cette tristesse ici. Car je suis prêt de tomber et ma douleur est toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Et nous revoyons ses ennemis. Et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Je ne vous aime pas. Celui qui vous dit « Allons vers d'autres dieux », il ne vous aime pas. Celui qui vous demande de laisser tomber un dieu, il ne vous aime pas. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires. Pourquoi sont-ils mes adversaires? Parce que je recherche le bien. Oui. Toujours ses adversaires. Dans le psaume 23, David dit, c'est aussi dans sa marche, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me ferait poser dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. On a déjà parlé de tout ça. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Toujours ces mêmes sentiers. Dans certains psaumes, on met les deux. Sentiers de la justice et de la droiture. À cause de son nom. Pour que son nom ne soit pas blasphémé. Il le fait à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors, au verset 5, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et justement, quand vous êtes en présence ou en face de vos adversaires, face de ces personnes qui ne vous aiment pas, de ces choses qui vous arrivent, c'est là que vous passez les plus grandes expériences avec Dieu. S'il n'y avait pas d'adversaire, il y a plein de choses concernant Dieu, ses attributs, que vous ne connaîtriez pas. Amen. Il faut des microbes pour que nous sachions que Dieu est guérisseur. Il faut qu'on soit lié pour que nous sachions que Dieu délivre. Il faut qu'il y ait la nuit pour que nous puissions apprécier les jours. Et il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Il mange en face de ses adversaires. Il lui dit, tu oins d'huile ma tête. C'est le Saint-Esprit. Et le résultat, sa coupe déborde. La coupe de bénédiction, elle déborde. Et là, vous vous en retrouvez à chanter. David, quand on le décrit, suivant le regard de Goliath, par exemple, Goliath avait devant lui un gamin. Saül aussi lui dit, tu n'es qu'un jeune homme. Quand vous lisez les dangers par où passaient les brebis dont les bergers devaient protéger, parfois je me pose la question, pourquoi est-ce qu'Isaïe a confié la tâche de berger au plus jeune, qui semble être le plus frêle, tandis que les costauds, les bons gaillards, qui pouvaient se défendre, vous vous souvenez de l'histoire de David, de Moïse par exemple, quand il a fui, il a trouvé les filles de Jéthro en train de paître les brebis, elles ont été attaquées par des brigands. Amen. Et David lui-même, quand il se retrouve devant Saül, il dit, quand je gardais les brebis de mon père, un lion m'a attaqué. Un ours m'a attaqué. Quand vous savez qu'un lion va attaquer, qu'un ours va attaquer, vous ne laissez quand même pas le plus jeune des enfants à garder les brebis. Mais David ne regardait pas à son père, ne regardait pas à ses frères. Dans ses psaumes, il ne parle nulle part de son père. Il ne parle nulle part de ses frères. Mais il parle de Dieu. Il avait les yeux constamment sur Dieu. Et c'était presque, quasiment aux yeux de son propre père, il était presque un bon à rien. Oh, il y en a juste. Montre-moi tes fils, il en appelle 6 qui viennent. Il ne dit pas au prophète que, en fait, il en a un autre qui garde les brebis. Comme s'il en avait un peu honte. Je ne sais pas, ça, on le lui demandera quand on sera là-bas. Isaïe, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui est sûr, c'est que il avait confié ce travail à David. Et il a fallu que Samuel pose la question. Ce n'est pas lui qui dit, mais attends, j'en ai encore assez. Non, un septième, non. C'est Samuel qui lui pose la question. Sont cela tous tes fils? Dieu ne peut pas se tromper. Il doit y en avoir encore. Alors, il dit, non, mais il y en a encore un. Je ne pense pas que l'Éternel puisse t'envoyer vers celui-là pour le roi. Et bon, Samuel lui dit, écoute, je ne quitterai pas ici tant que l'affaire ne sera pas réglée. Ça va, vous connaissez l'histoire, hein? On n'a pas bon de lire, pas besoin de lire. Et on va appeler David, et finalement, David, quand il arrive, Dieu dit à Samuel, voilà l'homme selon mon cœur. Et c'est lui qui devait être roi. Certainement à la grande stupéfaction d'Isaïe. Et David se confiait à Dieu. On pouvait dire plein de choses sur David, de fausses ou de vraies. Comme il dit ici, de faux témoignages. Je ne sais pas ce qu'on allait raconter. On sait tous ce que c'est que la médisance. La médisance, c'est aller raconter ce qui est vrai, mais aller raconter ça ailleurs. C'est autre chose qu'une diffamation. Et bon, David, justement, dans ses difficultés, c'est devant l'ours, avant qu'il n'affronte Goliath, c'est devant l'ours et le lion que David a vécu ses grandes expériences avec Dieu. Il faut ce genre d'adversaire. Pas une fourmi, c'est facile, vous allez l'écraser. Vous n'allez pas dire, gloire à Dieu, j'ai écrasé une fourmi. Mais quand vous pouvez prendre un lion aussi, tel qu'il est décrit, frêle qu'il est, c'est un peu de voir un lion, comment il est, voir un ours quand il se stresse sur ses pattes, et n'avoir pas d'arme à feu, mais venir avec ses mains, c'est une énorme expérience qu'il a vécue avec Dieu. Il savait que lui, il n'avait pas la force de tuer l'ours ni le lion. Ça a été ses plus grandes expériences. Et ça lui a permis d'affronter Goliath. Ces expériences vous permettent d'affronter des adversaires sérieux. Ces adversaires, lorsqu'ils viennent, ils en veulent non seulement à votre vie, mais ils en veulent aussi à la vie de ceux que vous aimez. Et si vous connaissez le Seigneur, David certainement aimait ses frères, parce que quand son père lui a dit « Amène un peu la nourriture à tes frères, va voir comment ils sont là-bas à la guerre », Isaïe se préoccupait plus des autres grands que de David. Et il demande à David d'y aller. David y est allé sans problème, sans rechigner. Il n'a pas pris l'excuse de garder les brebis, disant « Non, papa, je dois garder les brebis ». Non, il y est allé. Et quand il est allé, il est arrivé au moment où Goliath était en train de défier tout Israël. Et ça l'a énervé de voir que cet incirconcis en arrive à défier une armée de croyants. Et t'as menaçant. Ça l'a embêté. Comment pouvez-vous laisser cet incirconcis parler ainsi à vous qui êtes croyants? Vous savez, Goliath est impressionnant. David pouvait vite rentrer, il pouvait fuir. Mais non, il s'est présenté, il a dit à Saül, il dit, écoute, moi je veux le combattre. Saül au moins a eu pitié de lui. Saül lui dit, mais tu n'es qu'un enfant. L'autre, il est exercé à la guerre. Oui. Seulement, ce que Saül ne savait pas, c'est que David était aussi exercé à des combats, parfois d'une autre nature. Et le fait que Dieu l'ait délivré de l'ours et que Dieu l'ait délivré du lion, David avait cette conviction qu'il en sera de même avec ce circoncis. Grâce à quoi ? Grâce à l'expérience. Ces expériences-là, les adversaires que vous affrontez, vous sortez d'une maladie où vous avez prié. Que ce soit vous ou quelqu'un que vous aimez. Ou il est mourant. Vous voyez bien que la personne est en train de partir, mais vous vous êtes mis à genoux, vous priez Dieu. Dieu vous répond. Et Dieu sort la personne de cette maladie-là. Vous allez avancer. C'est une merveilleuse expérience parce que vous allez avancer avec cette conviction que Dieu est avec vous. Ce n'est plus parce qu'on vous l'a dit à l'Assemblée, mais parce que vous l'avez expérimenté. Que lorsqu'on vous demande de prier, vous n'aurez pas à rechigner de prier, parce que vous avez cette conviction que Dieu entend les prières. Vous savez, dernièrement, je ne sais plus quel jour c'était, j'avais de l'insomnie, je ne dormais pas, mais puisque j'ai insomnie, je vais prier. Mais pour me lever, mettre à genoux et prier, j'avais envie de rester dans mon lit, il fait froid, il y a plein d'excuses qui viennent, il fait froid, fatigué, tu vas peut-être t'endormir ou des trucs comme ça. Mais j'ai pensé à quand je suis parti au Congo en novembre. Quand j'ai vu Dieu sortir, mon frère de là, il a sorti. J'ai vu ça, je me suis rappelé de ça, je me suis levé, je me suis mis à genoux. Sans cette adversité, je serais resté dans mon lit. C'est pour dire que l'adversité que l'on rencontre est bénéfique. Ça nous forme. Ça nous forme. Quand vous voyez quelqu'un qui était mourant se tenir debout, quand vous le voyez manger normalement, vous dites que Dieu est grand. Oui. Et justement, le prophète de cet âge nous parle d'un bon adversaire. Abraham dit, pour nous former, Dieu nous a donné un bon adversaire. C'est le bon adversaire qui nous convient. Amen. C'est lequel? Eh bien, on le connaît. 1 Pierre 4. D'abord, l'apôtre vous exhorte. Il nous exhorte. Il nous dit au verset 6, à Pierre 5. 1 Pierre 5. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Amen. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Pierre, comment sais-tu que la main de Dieu est puissante? Je crois qu'il a expérimenté. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Pierre en savait quelque chose. Aujourd'hui, qui ne connaît pas Pierre, appelé Saint-Pierre? L'homme en a même fait un pape. Oui. Et lui qui est passé par là, on a chanté ici tout à l'heure l'ancien évangile, lui qui est passé par ces choses-là, c'est quelqu'un de la même nature que vous et moi, qui avait ses soucis. Alors, il nous exhorte, il nous dit, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis. Dites amen à ça. Déchargez-vous de tous vos soucis. N'en gardez pas un. Ne dites pas, ne limitez pas Dieu. Ne dites pas, ce souci-ci est trop difficile pour Dieu. Quel que soit le souci, professionnel, santé, financier, spirituel, je n'en sais rien moi. Quel que soit le souci, Dieu est prêt à relever, à vous montrer qu'il est Dieu. Dieu est prêt à vous montrer qu'il est prêt à vous secourir. Et ça, David est passé par là aussi. Nous allons le lire. Mais il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car c'est personne d'autre, mais c'est Dieu lui-même qui prend soin de vous. Dites amen à ça. Car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Alors il dit, votre adversaire, le diable c'est l'accusateur, hein, les faux témoignages, l'accusateur des frères, Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous êtes dans une situation compliquée, vous pouvez être dans une situation difficile. Si vous vous laissez aller, c'est que le lion rugissant vous aura dévoré. Vous savez, ces choses qui font la guerre à l'âme. Hein? L'apôtre dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances, ces soucis que vous avez, ces problèmes que vous avez, les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Avec le diable au milieu de nous, sur ce sentier dans lequel nous sommes, ce diable, il arrive qu'il y traverse. Parce que Dieu ne l'a pas enlevés. Mais Dieu nous exerce, malgré ses attaques, à rester droit. Amen. À rester droit dans le sentier dans lequel nous marchons. C'est ça la grande expérience. Malgré toutes les attaques que l'on peut avoir, savoir rester droit. Les soucis que nous pouvons avoir, nos souffrances, eh bien, ces choses nous permettent d'expérimenter Dieu. Que Dieu est celui qui délivre. Je ne vais pas chanter « Libéré, libéré » parce qu'il a libéré Israël, mais je chante « Libéré, libéré ». C'est ce que dit le cantique, n'est-ce pas ?« Libéré, libéré, car Jésus-Christ m'a libéré. » C'est moi qui l'a libéré. Je ne chante pas parce qu'il a libéré Israël, je chante parce qu'il m'a libéré moi. Dans le psaume 32, David dit, maintenant, quand vous avez passé cette expérience avec Dieu, quand vous avez vu la main puissante de Dieu en action, David dit ceci dans le psaume 27, pardon. On va revenir au psaume 32. Dans le psaume 27, au verset 13, il dit, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Il a pu expérimenter la bonté de Dieu. Que Dieu est bon. Amen. Il dit, « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. » Ce sont ces gens qui se réjouissent de votre chute. Que vous êtes tombés, ces adversaires. Mais par la bonté de Dieu, vous êtes debout. Et justement, David est tombé. Il a commis son péché. Le lion l'a eu à ce moment-là. Mais Dieu est celui qui restaure. Et dans le psaume 32, c'est l'homme qui expérimente justement l'aide, le secours qu'il a reçu de l'Éternel. Il dit ceci, « Heureux celui à qui la transgression est remise. » Il expérimente le pardon du Dieu vivant. À qui le péché est pardonné. C'est tout un bonheur. Et quand il est dans ce bonheur, qu'est-ce qu'il fait? Il chante. Nous chantons ici. Je lisais un message, persévérer, il dit, le frère dit, J'aime beaucoup chanter. Il aimait beaucoup chanter. Ceux qui aiment bien parler des exploits de Dieu au travers du frère, n'est-ce pas? Ils aiment bien citer ce que Dieu a fait au travers du frère. Ils aiment beaucoup citer cela. Ah, Marie-Antoine, parfois, en ne le nommant pas, mais disant Malachie 4 a fait ci, Malachie 4 a fait cela. Mais lui, avec toutes ces choses qu'il a vécues, ça l'a conduit à aimer chanter. À aimer chanter la louange de Dieu, exactement comme David. David a vécu tellement de grandes choses avec Dieu qu'il a composé plein de psaumes. C'est là où Jacques nous dit, si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Et quand vous êtes dans la joie de vivre cette expérience, vous ne pouvez que chanter. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Pause. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'il peut encore dire si ce n'est ma coupe déborde? Ça déborde de bénédictions. Le bonheur ou le bon plaisir de ses adversaires, c'est quoi? C'est de le voir tomber. On l'a lu dans le psaume 38. Au verset 17, il dit, car je dis, ne permets pas qu'il se réjouisse à mon sujet. Qu'il s'élève contre moi si mon pied chancelle. Il parle de qui? Il parle de ses adversaires. Regardez le verset 21. Il dit, ils sont mes adversaires, parce que je recherche le bien. Donc, ne permets pas qu'ils se réjouissent à mon sujet, qu'ils s'élèvent contre moi si mon pied chancelle. Car je suis près de tomber et ma douleur est toujours devant moi. L'expérience qu'il a vécue, c'est que Dieu était toujours avec lui. Il y a un cantique qu'on aime bien jouer à la maison, c'est la version qui se trouve là, qui se trouve sur YouTube, c'est Jamais tout seul, où Dieu dit qu'il est toujours avec moi. C'est chanté en anglais. Une version plus longue que ce que nous avons, on ne craint rien. Mais c'est une série d'expériences qui est chantée, qui sont chantées, ces expériences-là, où il est question où il dit que le diable essaie de conquérir mon âme. Mais Dieu se dresse en bouclier devant. Et jamais, jamais, je ne suis seul. Et David dit, au verset 22 ici du psaume 38, il dit, ne m'abandonne pas, Dieu n'abandonne jamais les siens. Celui qui a composé Jamais tout seul, il a vécu cette expérience que Dieu était toujours avec lui. Quand il y a des tempêtes, il y a la voix de Dieu qui lui souffle, ne crains pas, je suis là. Il a repris certains couplets que nous avons, mais il en a rajouté d'autres. Et pendant que c'est chanté, vous voyez les gens, ils étaient assis et puis à un moment donné, les gens n'en pouvaient plus. Ils se sont tous levés. Ils ont commencé à chanter. Tellement chacun s'est souvenu ce que Dieu a fait dans sa vie. Ce que Dieu fait dans sa vie. Vivre dans les sentiers de la droiture, c'est un sentier où on expérimente Dieu. des douleurs arrivent, des situations difficiles arrivent, qui peuvent sembler inacceptables. Mais c'est inacceptable si Dieu n'est pas là. Mais quand vous voyez une personne continuer quand même la route, c'est Dieu qui l'a tenue. Ne dites pas que la personne est forte, dites que Dieu est grand. Parce que Dieu maintenir quelqu'un debout alors qu'il était tombé, c'est sa grandeur qui fait ça. Nous devons nous rendre compte que Dieu, celui qui nous tient par la main. Quand les choses deviennent trop difficiles, on ne sait pas comment s'en sortir, on se rebelle presque, et puis un jour, on voit que il faut aller à la, on vient à l'assemblée, puis on se met à chanter, on est bien, on se sent bien. Si on se sent bien, on dit bonjour au Seigneur. Celui qui est vaincu, il va repartir après avoir écouté la parole de Dieu, parce que Dieu va lui parler, il va lui dire, je t'aime. Parce que l'amour de Dieu ne consiste pas à nous sortir de la douleur. L'amour de Dieu consiste à nous avoir élus. Alors, comme dit le frère, l'amour de Dieu est électif. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Avant même que nous ne soyons nés, Dieu nous a aimés. Et parce qu'il nous a aimés, il nous a élus. Alors maintenant, une fois nés, on peut traverser des situations comme la vallée de l'ombre de la mort. David est passé par là. Il y est passé. Et c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure du fait que j'ai un peu l'impression que c'était un peu le bon à rien de la famille. Peut-être qu'il a vécu ça, on ne sait pas. Comment est-ce qu'il a vécu ça? Ou ses frères étaient bien formés, mais lui, il était chétif. Il était juste bon à garder les brebis, tandis que ses frères avaient suivi une formation militaire, avaient suivi je ne sais pas quoi. Mais lui, il était un peu délaissé. Et quand on vient pour oindre un des fils d'Isaïe, roi, Isaïe avait déjà catalogué ce fils-là comme étant bon à rien. Il n'a jamais fait appeler David. Il aurait pu dire à un de ses serviteurs, ou même à un de ses fils, va appeler ton frère. Va appeler ton frère là-bas, parce qu'il y a un prophète qui est venu ici, il doit oindre l'un de vous. Comment est-ce que Isaïe, déjà, avant même que Samuel ne se mette à chercher celui que Dieu avait choisi, Isaïe n'a même pas cherché à aller faire chercher David. Ce qui ne valait pas, peut-être pas grand-chose. Alors, nous ne savons pas ce que David ressentait devant ce genre de situation. Il était peut-être le mal-aimé de la famille. Je n'en sais rien, ça, on lui demandera quand on sera là-bas. Mais je me suis posé la question, comment se fait-il que, alors qu'il n'avait pas les muscles pour se défendre, ne pensant pas au lion, parce que même le grand Abinadab ou l'autre ne pouvait pas affronter le lion, mais au moins des brigands. Oui. Mais bon, et des bêtes sauvages. Mais il a vu que même si la famille l'abandonnait, si la famille ne pensait pas beaucoup à lui, l'Éternel ne l'abandonnait pas. Il ne va pas pleurnicher chez son frère ou chez son père. Il dit, papa ne m'abandonne pas, non. Il prie Dieu. Il dit, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Il ne va pas chercher du secours ailleurs, il cherche du secours chez l'Éternel. Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut. Et c'est l'expérience qu'il a vécue. Que Dieu, il y a un psaume où il est dit, il me délivre toujours de mes détresses. C'est l'expérience que chaque chrétien doit avoir vécue. Dieu ne veut pas qu'on le loue juste parce qu'on nous a demandé de le louer. Dieu veut qu'on le loue pour ce qu'il a fait dans nos vies. Et nous devons voir cela. Et lorsque nous prions, « Conduis-moi dans le sentier de la droiture », c'est le titre, nous devons être conscients de ce que nous demandons. Parce que quand nous demandons à Dieu de nous conduire dans le sentier de la droiture, je ne sais pas si en le chantant, nous l'avons compris, mais on l'a chanté ici. Dans ce chemin, il est difficile, n'est-ce pas? Vous l'avez entendu chanter. OK? C'est un très beau cantique. Chemin si raide et si étroit. Il est difficile, on le sait. Deux, il y a des épines sur le chemin. Dieu ne les enlève pas. Donc, quand on a prié, Seigneur, conduis-moi dans, laisse-moi choisir ce chemin difficile, ne pensez surtout pas que c'est un chemin plat et fleuri de facilité. C'est un chemin difficile, mais on ne vous demande pas à vous de vaincre. Christ a vaincu pour vous. Tout ce qu'il y a, suivez-le. Les épines, c'est juste pour vous faire peur. Mais il a subi les épines sur la croix. Avant d'aller sur la croix. Il a subi une couronne d'épines. Il a subi ça. Il a vaincu ça. Dites amen à ça. Par mots, il est monté avec sa croix. Et par vous, les vallées, eh bien, pour ça, c'est un petit problème pour Dieu. Et c'est un petit problème pour celui qui marche avec Dieu, qui marche sous les ailes du Seigneur, en étroite proximité avec lui. Donc, quand nous demandons à Dieu, conduis-moi dans le sentier de la droiture, nous devons être conscients de ce que nous demandons. Quand les épines viendront, ne pleurnichons pas. Sachons que c'est l'exaucement à notre prière. Dites amen à ça. J'aime bien l'exemple de Paul qui voulait absolument aller à Rome. Il a prié, il a dit, je ne cesse sans cesse dans mes prières. Ok, il a prié. Dieu a entendu sa prière. Paul est parti à Rome, à fond de cale, dans un bateau, en tant que prisonnier. Dieu a exaucé sa prière. Et quand nous chantons tout au long du voyage de ma vie, j'aimerais être comme Jésus, essaie un peu de voir le parcours du Seigneur Jésus-Christ. Essaie de voir ce parcours-là. Maintenant, si vous devez passer par le même parcours, c'est que ça donne. Partout où il passait, c'était des outrages. Partout où il passait, c'était des gens qui lui en voulaient, des gens qui le haïssaient, qui voulaient le ridiculiser. On l'invitait pour essayer de le ridiculiser. Quand on l'invitait, il venait. On le laissait au fond de la salle. Et ainsi de suite. Il n'avait pas les égards qu'il devait avoir. Mais c'est ainsi que nous sommes traités lorsque nous demandons à vivre, à être comme lui. Tout au long du voyage de ma vie, je désire seulement à être comme lui. Ce que nous demandons, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Amen. Alors, pour nos douleurs, pour nos soucis, c'est un peu, le frère Nestor a parlé des eaux amères ici, hein. Des eaux amères, des eaux de Marat. Les eaux de Marat, c'est pour tout le monde. Amen. Les eaux de Marat, c'est pour tout le monde. Et quand vous lisez pour les eaux de Marat, on termine par là. C'est le parcours, c'est Dieu qui les conduisait dans un sentier pour aller vers la terre promise. Ce n'était pas un chemin facile. Il y a d'abord eu la mer Rouge. Après la mer Rouge, ils ont cru que tout était terminé enfin. Non. En fait, de l'autre côté de la mer Rouge, le voyage ne faisait que commencer. Première chose, les eaux amères. Et au bord de l'eau, c'est Exode 15. Verset 22, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Skour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. S'ils ont fait 3 jours sans boire de l'eau dans le désert, c'est qu'ils étaient partis avec des réserves d'eau certainement. Ou bien ils rencontraient des points d'eau. Mais, à un moment donné, ils arrivent, après 3 jours, ils trouvent qu'il n'y a plus d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois. Et le frère nous dit que ce bois représente le calvaire, représente la croix du calvaire, le bois qui jeta dans l'eau. Alors quand les choses deviennent amères, Dieu vous indique le calvaire. Regardez justement au calvaire. Et quand vous regardez au calvaire, vous voyez combien lui, il a souffert. Et vous verrez finalement, ce que je vous dis ici, c'est ce que le frère dit. Vous verrez finalement que vos souffrances sont petites à côté de celles que lui, il a souffertes. Et ça vous redonne de la force. Et c'est le sentier divin. C'est le sentier que Dieu a tracé devant vous. La vie que vous aurez ne sera pas toujours sucrée. Et encore, très rarement. Oui, hein? Tu es encore jeune et pourtant, tu as déjà cette expérience. Oui. C'est ça. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Justement, l'épreuve, on en reparlera peut-être la fois prochaine. On en reparlera. L'épreuve est nécessaire. Quand vous demandez à Dieu certaines choses, Dieu va vous les donner. Comme on vous dit, la patience, jamais. Dieu ne vous donnera la patience comme ça, un paquet de patience dans le cœur. Pour vous donner de la patience, il va vous donner quelqu'un qui va finir par vous rendre patient. Dites amen à ça. Et ne venez pas pleurnicher. Père, priez pour moi. Satan m'attaque à la maison. Non, non. C'est Dieu qui est en train de te former. Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Qu'il nous conduise. Vous êtes d'accord? On peut le demander. Qu'il nous conduise dans le sentier de la droiture. Parce que nous avons besoin de passer des expériences avec lui. Nous avons besoin d'expérimenter Dieu. Alors, qu'il nous y conduise. Et lorsque nous aurons à lui rendre grâce, nous allons énumérer tout ce que Dieu aura fait pour nous. Si c'est la consolation, nous dirons combien il nous a consolés. Si c'est nous guérir, nous dirons comment il nous a guéris. Si comment il nous a exaucés, nous le dirons. Nous en témoignerons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prions, Seigneur. Père Céleste, c'est une chose merveilleuse que de savoir que parfois, comme on dit souvent, nous ne payons pas de mine par notre apparence ici sur terre, mais devant toi, nous avons du prix. Nous avons du prix à tes yeux. Cela nous rassure, cela nous conforte encore davantage. Sachant que même si le monde et ses attraits viennent nous tracasser, nous avons cette assurance que et cette joie de marcher à tes côtés, de sentir ta présence, de voir ton œuvre au-dedans de nous, au travers de nous et même au travers de tes enfants. Nous te remercions pour tout cela. Nous joignons notre prière à celle de David. Conduis-nous dans les sentiers de la droiture. Enseigne-nous tes voies. Que nous puissions prendre tes voies sans en craindre les épines, les pierres, les chemins, comme dit, si le chemin est rocailleux, c'est pas grave. Même s'il blesse un peu, nous savons que tu demeures Jéhovah Rapha. Il nous guérit de toutes les maladies. Tu es l'Éternel qui nous délivre. Tu es notre Rédempteur. Nous avons du prix à tes yeux. Si le monde nous méprise, toi tu nous aimes. Tu nous manifestes ton amour. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissant. Comment savons-nous que tu nous aimes? C'est parce que nous t'aimons. Et si nous t'aimons, c'est parce que tu nous as aimés le premier. Nous avons passé par des vallées, parfois les vallées des pleurs, la vallée des pleurs, la vallée de l'ombre de la mort, toutes sortes de vallées, mais nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Nos adversaires, qu'importe, notre table est dressée devant eux, et nous voyons ces bénédictions déferler Paul alors que il avait été mis en prison à cause de la parole. Il a dit, il s'est écrié, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Malgré ses souffrances, sa coupe a débordé. Parce que notre coupe déborde également. De ces choses que nous avons à boire, que nous puissions en tirer l'expérience qu'il nous faut, savoir que tu es celui qui redresse tout, que tu nous restaures, que tu restaures notre âme, même lorsqu'elle faiblit un peu, tu es celui qui la restaure, tu lui donnes la force. Merci de nous avoir rassemblés ce soir au nom de Jésus-Christ. Merci pour les psaumes que nous avons lus. Des choses ont été écrites pour nous instruire. Et nous sommes instruits. Et c'est que ceux qui ont avancé avec toi, qui ont marché avec toi autrefois, ici sur terre, ils n'ont pas eu la vie facile. En lisant les psaumes de David, nous voyons que sa vie n'était pas facile, mais en aucun cas il s'est écarté du sentier de la droiture. Or, il est tombé, il lui est arrivé de tomber, mais tu l'as redressé à chaque fois. Tu lui as pardonné ses péchés et il en a éprouvé du bonheur. Il a dit Heureux est l'homme, celui à qui l'iniquité est pardonnée. Merci pour ta grâce. Il a même dit, après avoir exprimé, il a dit, la bonté Ta bonté et ta grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est l'expérience qu'il a vécue. Il a vécu la bonté de l'Éternel. Il a vécu, il a expérimenté la grâce de l'Éternel. Cet homme mérite la mort. Cet homme, c'est toi, David. Mais tu ne mourras pas. Oh, quelle grâce, il a pu se dire. Béni sois-tu. Merci de nous raccompagner dans nos maisons. Nous voulons, en partant d'ici, nous voulons avoir déposé à tes pieds tous nos soucis. Le souci de guérir de cette maladie qui nous tracasse, qui nous colle. Le souci d'être délivré de ce lien qui nous accable. Le souci de vaincre cet obstacle qui est devant nous. Nous voulons déposer tout cela à tes pieds et marcher en toute confiance sur ta présence et sur ton aide, sur ton secours. Il nous est recommandé d'attendre ton secours en silence. Nous l'attendrons en silence. Et nous témoignerons de ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te prions, te remettons notre chemin de retour. Amen. Dieu vous bénisse.